Orinoco. Billets d'humeur ou chroniques, anecdotes ou histoires, culturelles et musicales. Inclassable. Aux manettes et au micro, Gilles Bègue. Bonjour à toutes et à tous, et encore une fois merci pour votre fidélité à ce programme. Programme diffusé sur les antennes de 48 FM et de Fréquence Mistral, en streaming sur le net, mais aussi en podcast, quand bon vous semble, sur le site orinoco-podcast.com, ainsi que sur toutes les grandes plateformes de streaming. Programme qui ce soir nous conduira, une fois de plus, vers un autre voyage. Car après être remonté en décembre dernier sur les premières traces de l'illusionnisme qui nous conduisirent de Dédi de Desnéfou, le premier illusionniste retenu par l'histoire vers 2600 avant Jésus-Christ, jusqu'aux mentalistes actuels, le mois dernier nous proposait un retour dans le passé pour retracer l'histoire même des voyages, allant des premiers déplacements réguliers et importants de l'Antiquité jusqu'au voyage spatial. Eh bien, c'est encore un retour dans le passé qui nous permettra, peut-être, d'avoir un regard plus affûté sur le conte et les conteurs. Leurs origines, leurs singularités, leurs propriétés et leur utilité. J'espère que l'ensemble de ces pérégrinations à travers le temps et le monde saura, une fois de plus, vous intéresser et peut-être vous faire découvrir quelques secrets que seuls les contes savent véhiculer. Et comme l'indique le générique de cette émission, programme culturel et musical fait d'anecdotes, d'histoires et de rencontres, je vais en quelques mots vous révéler l'origine de ce programme. Après avoir reçu un commentaire sur l'émission Littérature orale, je me suis permis de prendre contact avec l'auteur de ce commentaire, Nora Asseval, qui me fit remarquer qu'en écoutant l'histoire que ma mère me racontait le soir, Le diable et le paysan, elle se rappela l'histoire que sa grand-mère lui racontait quand elle était enfant, le chacal et le hérisson. L'intrigue était la même, les personnages, eux, avaient changé. Et j'ai pris conscience à ce moment précis que les contes voyageaient à travers le monde et se racontaient parfois et souvent différemment. Regard nouveau qui me donna immédiatement l'envie de partager avec vous l'histoire des contes et des conteurs. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet, sujet si vaste, si antique et si présent à la fois, que je me suis longtemps demandé comment je devais commencer ce programme pour être le plus explicite, sachant que des choix s'imposeront à moi et que je ne pourrai pas couvrir l'intégralité du spectre que représentent les contes à travers le monde. Mais pour structurer ce programme sur les contes, conteurs et conteuses, je me sentais obligé de survoler différents aspects que je vais rapidement énumérer ici avant de les développer plus longuement au cours de ce programme. Premièrement, la définition du mot. Qu'est-ce qu'un conte ? Et qu'est-ce qui le différencie des fables ou des légendes ? Il y aura bien évidemment l'historique, sa place dans l'histoire. Puis nous parlerons aussi de la particularité des contes. Son genre, nombreux sont les différents types de contes pour enfants, pour adultes, merveilleux, fantastiques. Il y aura bien sûr leur localisation, les contes se racontent à travers le monde. Puis leurs objectifs, divers aussi. Nous parlerons enfin de ceux qui font vivre les contes, les conteurs et les conteuses, qui connurent aussi une évolution au fil des siècles. Et au travers de chacun de ces chapitres, la lecture de certains contes peu connus s'imposera. Voilà en deux mots comment s'articulera ce programme. avec à la clé une petite précision qui a son importance. Information s'adressant aux compteurs, compteuses, collecteurs de comptes et spécialistes. Ne vous attendez pas à apprendre des choses exceptionnelles. Cette émission a plus pour vocation la vulgarisation du compte, tout particulièrement auprès de ceux qui ne le connaissent pas ou peu. Je pense entre autres en disant cela à Nora Asval, une conteuse et écrivaine franco-algérienne qui collecte et publie des comptes et qui fut à l'origine de ce programme. Ce en quoi je tiens à la remercier tout particulièrement. Il y aura malgré tout une petite pépite à découvrir au travers d'un document sonore collecté tout près de Sinamaica, à la frontière de la Colombie et du Venezuela. Alors, qu'est-ce qu'un conte ? C'est un genre littéraire, avant tout oral, mais parfois écrit, comme nous le verrons, qui relate des récits de faits ou d'aventures imaginaires. Le récit lui-même porte le nom de conte. Et qu'est-ce qui différencie un conte d'une fable ? Plusieurs paramètres peuvent différencier le conte de la fable. Premièrement, il est souvent plus long qu'une fable. Deuxièmement, alors que la fable est écrite souvent en vers, le conte, lui, est écrit en prose. Troisièmement, et peut-être la plus importante différence entre le conte et la fable, c'est qu'elle comporte toujours une morale implicite qu'il faut savoir interpréter, ou explicite, qui se trouve directement dans le texte. Le conte, lui, stimule l'imaginaire et permet de toucher de l'oreille un pan de la culture orale, car le conte se dit plutôt qu'il ne se lit. Si vous désirez d'ailleurs en savoir davantage sur les fables, j'avais réalisé une émission pour les 400 ans de Jean de La Fontaine en avril 2021, émission que vous pouvez toujours retrouver sur le site orinoco-podcast. Maintenant, qu'est-ce qui différencie un conte d'une légende ? Bien, le conte est une histoire inventée qui nous emmène dans des lieux imaginaires et dans un univers merveilleux ou terrifique. Il peut donc y survenir des événements surnaturels, histoire qui se transmet de bouche à oreille. Dans tous les pays du monde, cette tradition orale fait partie de la mémoire collective. Bien qu'au fil des temps, ces contes traditionnels sont devenus des textes littéraires rédigés par des écrivains. La légende, elle, est souvent la représentation traditionnelle de faits ou de personnages réels, déformés ou amplifiés. Elle raconte la vie d'un héros ou d'une héroïne, rendant hommage à leur courage. La légende se base soit sur des faits incertains mais qui pourraient s'être produits, soit sur des faits historiques réels mais qui ont été déformés et embellis. Même s'il y a des choses extraordinaires dans les légendes, elles se déroulent dans des endroits qui existent ou qui auraient pu exister, contrairement aux contes. Une des légendes autour duquel j'ai articulé et proposé un programme que vous pouvez toujours écouter en podcast, c'est la bête du Gévaudan. Voilà en deux mots comment résumer la définition du conte et ses différences d'avec les fables et les légendes. L'historique des contes maintenant. Alors autant il est relativement simple de dater dans l'histoire un outil, une construction, un texte ou quelque autre objet matériel, autant tout ce qui a trait à l'oralité est souvent plus difficile, voire impossible à situer dans le temps. Même le carbone 14 n'y peut rien. De plus, de nos jours, l'étude des contes s'intéresse surtout à leur sens, leur forme artistique et au rôle qu'ils jouent ou ont joué dans une communauté donnée. Les folkloristes du XIXe siècle, eux, étaient préoccupés avant tout par la question de leur origine. Peut-être deux mots pour préciser ce qu'est un folkloriste. Eh bien, c'est une personne qui consigne ou étudie les histoires, les légendes et les musiques issues du folklore, c'est-à-dire de la tradition populaire. L'existence en plusieurs points du globe de récits semblables, aussi absurdes, constituait une énigme qu'il leur fallait à tout prix résoudre. Avides de commencement absolu, les folkloristes du XIXe siècle ont émis plusieurs théories concurrentes. Bernadette Bricout, ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée de lettres modernes et maîtresse de conférences en littérature orale, faisait remarquer que Le conte, c'est d'abord une parole, venue de la nuit des temps, transmise de génération en génération pendant des siècles, quelquefois pendant des millénaires, puisqu'on a retrouvé des contes dans les papyrus égyptiens ou sur les tablettes issues des sables chaldéens. Et cette parole, ce récit qui a connu l'épreuve du temps, en parvenant jusqu'à nous, fascine parce qu'il se rapproche fondamentalement du mystère. Et je pense personnellement que s'en tenir à cette réflexion est amplement suffisant. Alors avant de poursuivre l'analyse des contes, à quoi ils servent et leurs différentes particularités, ainsi que leur renouveau, entamons ensemble un petit tour du monde des contes. Et je peux vous dire que ce n'est pas chose aisée, car si les contes sont un genre très ancien et universel, qu'ils véhiculent une culture populaire venue de la tradition orale et possèdent un aspect intemporel, ils sont aussi souvent sans localisation précise. De même qu'ils n'ont souvent pas d'auteur. Mais tentons de relever ce défi avec, pour commencer, un conte venu de nos amis d'Outre-Rhin, recueilli par les frères Grimm et publié dans leur conte de l'enfance et du foyer. Petite parenthèse, les contes ouverts offrent une particularité. Et ce conte que je vais essayer de vous dire, étant ouvert, la fin ne donne pas de solution, mais laisse à chaque auditeur une porte ouverte. Et c'est ce type de conte, le conte de la clé d'or, que je vais vous dire. Conte autour duquel chacun pourra construire son monde, ses attentes et tout ce que l'on veut bien y mettre. Je vais essayer de vous le dire. À la saison d'hiver, un jour où la neige était épaisse, recouvrant tout le pays, un jeune garçon fut envoyé et dut sortir en forêt pour rapporter du bois mort sur son traîneau. Avant même d'en avoir ramassé et de l'avoir chargé, il était déjà gelé comme une grive. Quand il l'eut ramassé et chargé sur sa luge, il se dit alors qu'avant de ressortir du bois pour rentrer à la maison, il allait essayer d'allumer un petit feu pour se réchauffer, car il était transi de froid et préférait d'abord allumer un feu. Pour ce faire, il écarta la neige et comme il remuait ainsi la terre, il trouva une petite clé d'or. Il pensa alors que là où était la clé, une serrure ne devait pas être loin. Il fouilla la terre en grattant de plus en plus profondément et, en effet, découvrit une petite boîte en fer, un coffret de fer. Si la clé seulement pouvait convenir, pensait-il, il y a sûrement des choses précieuses dans ce coffret. Il chercha, mais il n'y avait pas de trou de serrure dans ce fichu coffret. Puis enfin, il en trouva un, mais si petit qu'on ne pouvait à peine le voir. Il essaya immédiatement d'y introduire la clé, et la clé convenait, heureusement, c'était la bonne. Alors, il donna un tour, la fit tourner une seconde fois dans la serrure, car le coffre ne s'ouvrait toujours pas, et maintenant, ça y est. Il ne nous reste qu'à attendre qu'il ait fini de tourner la clé dans la serrure, lever le couvercle, et alors, nous apprendrons quels objets merveilleux contenait ce coffret. Dans ce conte, extrêmement court, on ne nous dit rien de la chute malicieuse, autant qu'inattendue. L'autre conte, assez court, que j'aimerais vous dire, aborde le thème du pouvoir de l'opinion extérieure. Et vous verrez qu'un conte, même très court, peut être riche d'enseignements, et quel que soit votre âge. Il était une fois un grand groupe de grenouilles qui allaient toujours s'amuser en forêt. Elles chantaient à tue-tête et sautaient jusqu'à ce que la nuit tombe. Elles riaient beaucoup et étaient inséparables, de vrais amis. Un jour, lors d'une sortie habituelle, elles allèrent découvrir une nouvelle forêt. Alors qu'elles étaient en train de s'amuser, trois d'entre elles tombèrent dans un trou profond qu'aucune n'avait remarqué. L'ensemble des grenouilles était bouleversé en s'approchant du trou et voyant leur compagne. Elles regardèrent une dernière fois au fond de ce trou et, constatant qu'il était très profond, trop profond, elles dirent « Nous les avons perdus ». Les trois grenouilles au fond du trou essayèrent bien de remonter en escaladant les parois, mais c'était trop difficile. Elles avançaient à peine d'un mètre et tombaient à nouveau. Voyant cela, les autres commencèrent à dire que leurs efforts étaient inutiles. Comment pourraient-elles escalader une paroi aussi haute et abrupte? Il valait mieux qu'elles abandonnent. Il n'y avait rien d'autre à faire. Deux des grenouilles, entendant ces commentaires, renoncèrent et se mirent progressivement à abandonner. Elles pensaient que les autres avaient raison et finirent par s'en convaincre. La troisième grenouille, en revanche, continuait à monter et à tomber sans relâche. Après quelques heures, ses efforts furent payés de succès et réussit à remonter à la surface. Les autres, l'apercevant, furent stupéfaites. L'une d'elles lui demanda « Comment as-tu réussi ?» La grenouille ne répondit pas. Elle était sourde. Et comme pour la majorité des contes, ce n'est pas leur longueur qui en fait leur richesse. Si l'on prend le temps de réfléchir quelques instants sur ce conte des grenouilles et du trou, on découvre toute l'ampleur et parfois le drame que peut avoir l'influence extérieure. Un proverbe nous dit « Les conseillers ne sont pas les payeurs ». Ce proverbe de Gabriel Meurier, écrit en 1568, nous incite à nous méfier des donneurs de leçons. Bien que des gens vous conseilleront, seul vous-même en subirez les conséquences. Aujourd'hui, il n'y a pas que les sages, les parents et les juristes pour nous conseiller. Il y a les influenceurs, les réseaux sociaux, les blogueurs en tout genre, les médias, souvent à la solde d'une même idéologie. Et l'ensemble de ces acteurs peut avoir une influence néfaste si l'on prête trop d'importance et d'attention. Cela peut se présenter sous différentes formes, vous décourager dans les voies que vous choisissez, qu'elles soient vestimentaires, professionnelles, sanitaires, sentimentales ou spirituelles. Il faut parfois savoir payer le prix fort pour suivre la voie qu'on s'est tracée. Le pouvoir de l'opinion est bien souvent trompeur, même si bien intentionné. Si la petite grenouille de ce conte s'était laissée décourager par les propos de ses consoeurs, elle serait certainement morte au fond du trou, qui paraissait à toutes insurmontable. Somme de réflexion à ne pas décorréler malgré tout d'une maxime de La Rochefoucauld. Il n'y a quelquefois pas moins d'habileté à savoir profiter d'un bon conseil qu'on nous donne qu'à se bien conseiller soi-même. Tout ça pour dire qu'il est judicieux de se méfier du pouvoir de l'opinion, même s'il paraît largement majoritaire, mais qu'en parallèle, il est sage parfois de ne pas se soustraire aux judicieux conseils. D'ailleurs, pour en savoir davantage sur toutes les formes que peuvent prendre ces contraintes, par peur d'être rejeté du groupe ou pour le moins mal vu, vous pouvez toujours réécouter le podcast de l'émission sur le conformisme, qui dépeint le processus d'influence sociale par lequel une personne est amenée à aligner ses propres perceptions, croyances ou conduites sur celles d'un ensemble d'autres personnes, même si contraires à ses propres convictions. Puis, avant de revenir sur l'analyse des contes et pour rester encore quelques instants en compagnie des amphibiens et continuer ce petit tour du monde des contes, une légère incursion dans le conte chinois. Alors, intéressant de noter que leurs livres commencent là où finissent les nôtres. Effectivement, le chinois s'écrit de droite à gauche, de haut en bas, en colonne verticale, et non de gauche à droite, en ligne horizontale comme les nôtres. En classe, lorsqu'un écolier récite sa leçon, il ne fait pas face au professeur, il lui tourne le dos. Ainsi, le verbe « réciter », « pays », signifie-t-il originairement « tourner le dos à quelqu'un ». Le blanc est la couleur du deuil. Alors tout ça pour faire remarquer que leur monde, leur culture, n'est pas la nôtre, et qu'il est illusoire de vouloir retrouver les mêmes articulations intellectuelles, littéraires et artistiques. Et c'est sur cette brève introduction que je vais essayer de bien vous dire les têtards à la recherche de leur maman. Par une belle matinée ensoleillée, dans l'eau pure d'un étang, une maman grenouille vient de pondre ses œufs sous la feuille d'un nénuphar. Croix, croix, s'écrie maman grenouille, en sautillant de nénuphar en nénuphar. Mourant de faim, elle décide alors de plonger dans l'eau pour aller se nourrir. Entre-temps, les têtards, se sentant vite à l'étroit, dans leurs œufs avec leur queue toute neuve, décident de partir à la recherche de leur maman et à la découverte d'un monde nouveau. Au cours de leur pérégrination, ils rencontrent une poule et ses poussins qui picorent au bord de l'eau. « Bonjour, qui êtes-vous ? » « Nous ? Nous sommes des têtards. Et vous ? Qui êtes-vous ? » « Nous, nous sommes des poussins. Maman, maman, nous avons de nouveaux amis, des têtards. » Et notre maman à nous, où est-elle ? Se demande-t-il. Allons à sa recherche. Quand soudain, ils croisèrent deux crevettes nageant à contre-courant. Les têtards leur demandent « Où est notre maman ? À quoi ressemble-t-elle notre maman ?»« Votre maman, je viens de la voir passer. Elle a de grands yeux. Dépêchez-vous de la rattraper. » Alors les têtards replongent de plus belle et aperçoivent un poisson d'or derrière les algues. Se souvenant que les crevettes leur ont dit « Votre maman a de grands yeux ?» Et, en observant le poisson d'or, il s'écrie « Maman, maman !»« Je ne suis pas votre maman, » répond-il, « Votre maman a le ventre blanc. » Pendant ce temps, la grenouille revenue près de la feuille de nénuphar ne trouve plus ses œufs. Maman grenouille, très inquiète de la disparition de ses bébés, se lance à son tour à leur recherche. Pendant ce temps, en voyant le crabe au ventre blanc, les têtards s'écrient « Maman, maman !»« Je ne suis pas votre maman. Votre maman a quatre pattes, moi j'en ai 10. » Puis en voyant une tortue qui a quatre pattes, ils s'écrient à nouveau « Maman, maman !» Mais le bébé tortue protesta et hurla « Ce n'est pas votre mère, c'est la mienne. C'est ma maman, à moi. Les enfants ressemblent à leurs parents. » Puis voyant au fond de l'étang un énorme poisson-chat faisant la sieste, les têtards s'interrogent. « C'est sûrement notre maman. Elle nous ressemble. »« Maman, maman !» Le poisson-chat, réveillé en pleine sieste, a l'air furieux et les chasse. Arrivée sur ses entrefaits, la grenouille demande au poisson-chat « Pourquoi leur as-tu fait peur ? Ce sont mes enfants. »« Je plaisantais, » répondit le poisson-chat. « Mes enfants chéris, je vous retrouve enfin. » Elle a de grands yeux, le ventre blanc et quatre pattes. C'est notre maman. Mais on ne lui ressemble pas. Vous me ressemblerez quand vous serez grand. Maman, c'est notre maman. Le temps a passé et les têtards sont devenus de jolies petites grenouilles. Ce conte, pour enfants, peut aider à expliquer les différentes manifestations de la vie, notamment la naissance et la croissance, de l'enfance au monde adulte en passant par l'adolescence. La profondeur de ce conte s'apprécie davantage si l'on connaît un peu les différentes étapes de développement du têtard à la grenouille, développement pouvant durer 4-5 mois, sachant aussi qu'ils ont une forme de développement à la carte, suivant les conditions environnementales. Donc, pas lieu de s'inquiéter si tout paraît différencier sa mère de ses petits. ils ne respirent pas pareil, ils ne mangent pas pareil, etc. Mais au bout du compte, C-O-M-P-T-E, comme au bout du compte, C-O-N-T-E, ils deviendront de jolies petites grenouilles. Alors avant d'en découvrir quelques autres, revenons un instant sur l'analyse des contes qu'on avait entamés en début de programme et essayons de répondre aux questions « À quoi servent-ils ?» et « Quelles sont leurs différentes particularités ?» À quoi sert le conte ? Eh bien, le conte magnifie notre quotidien. Il nous invite à percevoir le merveilleux au cœur de notre vie quotidienne. Grâce à eux, on apprend à regarder le monde autrement, à regarder autrement notre monde souvent désenchanté, marqué par la routine, par des contraintes, par des inquiétudes, par des angoisses. Puis ils permettent de développer le vocabulaire des enfants, mais aussi leur capacité à mettre des mots sur les choses. Ils permettent de faire prendre conscience de la puissance des mots. En plus d'avoir un but éducatif, ils offrent un accès à la compréhension de la vie. On pourrait résumer l'utilité du conte en une phrase : le conte distrait et instruit en s'amusant. Quelles sont les particularités propres au conte ? Alors qu'il soit merveilleux, philosophique ou fantastique, il commence presque toujours par cette phrase clé : il était une fois. Et qu'est-ce qu'implique cette petite phrase qui entame presque toutes ces capsules orales ? C'est que nous entrons ainsi dans un univers que l'on ne peut situer ni dans le temps, ni dans l'espace, mais qui nous parle pourtant de notre histoire. Cette formule « il était une fois » qui introduit la majorité des contes n'est d'ailleurs pas gratuite. C'est la porte d'entrée vers un ailleurs qui nous permet, selon les mots de l'écrivain et poète Tolkien, de contempler les profondeurs de l'espace et du temps. Puis, le dénouement peut être compris à différents niveaux, ce qui permet de le relire et d'en saisir une nouvelle dimension ou d'en tirer un enseignement plus abstrait. De plus, le conte ne s'épanouit que dans l'obscurité. Le conte est une parole de nuit. D'ailleurs, on ne devait pas traditionnellement raconter des contes avant le coucher du soleil. Petite précision qui a son importance. Beaucoup pensent à tort que le conte est réservé aux jeunes enfants. Mais il peut servir à tous, car il se révèle un outil intemporel, présent dans toutes les cultures, de tous les temps et à toutes les époques. C'est pour cette raison que toutes les civilisations ont inventé des contes pour faire rêver ou pour expliquer le monde. On peut se rappeler ce que je disais en début d'émission. Le conte est un genre littéraire à part entière. Au fil du temps, d'une tradition orale, les contes traditionnels sont devenus des textes littéraires, rédigés par des écrivains. Et cette évolution, nous en parlerons juste après ce nouveau petit voyage en plein cœur d'un autre continent, particulièrement riche en contes, et qui fera l'objet de ma prochaine lecture, l'Afrique. Avec un récit transmis de génération en génération. Alors plongeons au cœur de la tradition orale africaine, où chaque écho raconte une histoire unique, remplie de sagesse et de mystère. Le roi des échos. Il était une fois un homme qui alla dans la forêt pour défricher un bout de terrain, brûler les broussailles et préparer un champ. À peine commença-t-il à essarter la terre, qu'il entendit une voix dans les buissons. « Qui est là ?»« C'est moi, » répondit l'homme. « Que fais-tu ? » ?»« Je débroussaille. » »« Attends, je vais t'aider. Je suis le roi des échos et je vais t'envoyer 100 de mes sujets. » Sitôt dit, sitôt fait. Le roi envoya l'homme sans écho qui débroussaillirent le terrain en un tour de main. L'homme se félicita de cette aubaine. Avec une aide pareille, tout va pour le mieux. Quelque temps après, les broussailles une fois sèches, l'homme se rendit dans la forêt pour les brûler et pour amender son champ avec les cendres. À peine eut-il le temps d'allumer le feu qu'une voix se fit entendre. « Qui est là ?»« C'est moi, » répondit l'homme. « Que fais-tu ? Je brûle les broussailles pour amender mon champ avec les cendres. Attends, je vais t'aider. » C'était encore le roi des échos. Il envoya à l'homme 300 échos qui se mirent aussitôt à l'œuvre. En un tour de main, ils brûlèrent toutes les broussailles. Sa terre amendée, l'homme s'en félicita. Avec une aide pareille, tout va pour le mieux. Les pluies commencèrent. L'homme saisit un pot rempli de millet et s'en alla au champ pour semer. À peine commença-t-il sa besogne que le roi des échos se fit entendre. « Qui est là ? C'est moi. Que fais-tu ? Je sème le millet. Attends, je vais t'aider. » Et le roi lui envoya, en aide, 900 échos. Les semailles furent terminées en un tour de main. « Avec une aide pareille, tout va pour le mieux, » se félicita notre homme. Lorsque le millet se mit à germer, l'homme se rendit au champ pour arracher les mauvaises herbes. Le roi des échos ne tarda pas à l'appeler. « Qui est là ? C'est moi. Que fais-tu ? J'arrache les mauvaises herbes. Attends, je vais t'aider. » 1000 échos accoururent et arrachèrent toutes les mauvaises herbes en un tour de main. Une fois de plus, l'homme se félicita. Avec une aide pareille, tout va pour le mieux. Lorsque le millet se mit à lever, l'homme alla au champ pour chasser les oiseaux qui venaient le manger. Dès son arrivée, le roi des échos s'écria « Qui est là ? C'est moi. Que fais-tu ? Je chasse les oiseaux pour qu'ils ne mangent pas mon millet. Attends, je vais t'aider. » 10 000 échos accoururent et chassèrent jusqu'au dernier oiseau. L'homme s'en alla en se félicitant. Avec une telle aide, tout va pour le mieux. Des jours passèrent. L'homme arriva au champ. Il cueillit quelques épis et les goûta pour voir si son millet était mûr. Et le roi des échos appela « Qui est là ? C'est moi. Que fais-tu ? Je cueille quelques épis, je goûte mon millet pour voir s'il est mûr. Attends, je vais t'aider. » Aussitôt, 100 000 échos accoururent, cueillirent tous les épis et les mangèrent. L'homme s'en alla tristement, sans se féliciter. Cette fois, il se garda bien de dire « Avec une aide pareille, tout va pour le mieux. » Alors, l'adulte habitué à la littérature ne devrait pas se laisser buter par l'écriture simpliste et la pauvreté des descriptions, car, à vrai dire, elles permettent à l'imagination de chacun de s'approprier l'histoire. Et ces répétitions, pouvant paraître elles aussi simplistes, emporte l'auditeur dans une musique lancinante, la musique de la vie, peut-être notre musique, peut-être notre vie. Alors à ce stade de l'émission, je pense que certains d'entre vous se disent « C'est pas vraiment ce que j'attendais dans une émission sur le conte. J'aurais bien aimé entendre parler de La Belle au bois dormant, de Blanche-Neige, de Cendrillon, du Petit Chaperon rouge ou du Petit Poucet. Ça m'aurait rappelé mon enfance. » Et c'est évident que ces contes font partie de notre patrimoine. Certains ont même fait l'objet de réalisations cinématographiques, Disney étant le pionnier dans ce domaine, avec Blanche-Neige, le premier long-métrage des studios Disney sorti en 1937. Cendrillon, un classique d'animation des studios Disney sorti en 1950. La Belle au bois dormant, un classique d'animation toujours des studios Disney sorti en 1959. Effectivement, tous ces contes ont parcouru le monde, aussi bien dans les oreilles de nombreux gosses que sur les écrans du monde entier, et tout en sachant que Disney ne fut pas le seul à mettre en image l'ensemble de ces contes. Mais mon choix s'est porté sur des contes plus courts et moins connus, vous permettant de la sorte de peut-être les découvrir et surtout de pouvoir à votre tour les partager, car les contes ne vivent que dans le partage. Et parmi les contes que j'avais envie de partager avec vous, et pour poursuivre notre tour du monde des contes, je possède un document sonore unique en son genre. Le Venezuela, où j'ai eu l'opportunité de passer 25 hivers, a pour langue officielle l'espagnol. Mais il faut savoir Au Venezuela, il y a plus de 30 groupes aborigènes, tous parlant une langue différente et ayant tous une grande richesse de littérature orale. Pour ne citer que trois de ces ethnies que j'ai eu l'opportunité de rencontrer, il y a les Pemón, localisés essentiellement dans la Grande Savane, le parc national de Canaima, au sud-est du Venezuela, à la frontière du Brésil, les Warao, sur le delta de l'Orénoque, et les Wayuu, autour de la Laguna de Sinamaica vers Maracaibo, à la frontière de la Colombie. Et nous nous intéresserons tout particulièrement dans ce programme à une de ces ethnies, en se dirigeant vers le nord-ouest du pays, dans l'état de Zulia, près de Maracaibo, pour y rencontrer les Wayuu, qui sont parfois plus connus sous le nom de Guarico, les Indiens Guarico. À l'origine, c'était plutôt des itinérants, puis au contact des Européens, ils se sont souvent sédentarisés comme bergers. La langue des Wayuu est de la famille linguistique Arawak, avec un alphabet assez complet et 6 voyelles. Et parmi tous ces clans circulent de nombreux contes et légendes. Et ce soir, nous écouterons Kanewa, dans la langue des Wayuu. El árbol que da base, l'arbre qui donne soif. El árbol de mamón.
Hupapena te mairua. Josou shikal. Humankal. Wayu ehechima. Yawa. Wane. Wayu. Kapuyan. Kepuyshana. Huma. Tutuin. Nia. Kamalan pusu.
Il était une fois un indien Wayuu qui avait une grande famille. Il était bon chasseur et ne revenait jamais bredouille de ses expéditions. Un jour, il partit comme d'habitude chasser dans les hautes terres arides. En quelques coups de flèche, il tua quelques iguanes, un marucho et des palombes de montagne.
Numana chi wayukai ehet wane apain nohotsu mreun mai epure nepunahirain huma. Niarren, huyap, maiki, weir, kepeshuna, shomona, wana, ai, wayamara, hiare.
Soudain, il fut pris d'une soif intense, si terrible que cela l'inquiéta fortement, et il se mit en quête d'une source d'eau, mais par malchance, après de nombreuses heures de marche, il n'en trouva pas. Désorienté par cette soif, il se perdit dans la montagne.
Hesit paya main unyaskal nia oholosh hulia oloho.
À cet instant, l'homme pensa qu'il allait mourir et une peine profonde l'envahit à l'idée qu'il allait mourir seul, loin des siens, et qu'il allait servir de pâture aux vautours.
Amuloirakalaka nia unaap.
À sa mort, l'homme se transforma en un immense arbre à mamon, rempli de fruits charnus et savoureux.
Aka te moit pain no kuai pa wayukai ya nain rosu te oktahachin nia no mai waya wana ap.
C'est pourquoi dans la Guaira, on dit que le mamon a un mystérieux pouvoir et que si les enfants mangent beaucoup de ses fruits, il est sûr qu'en grandissant, ils souffriront de soif, comme c'est arrivé à cet homme qui chassait dans la montagne. Jusqu'à ce jour, perdure encore ce tabou en rapport avec la consommation du fruit de mamon. Cela vous a sans doute paru indigeste et vous n'avez bien sûr pas compris le moindre mot de cet indien. Mais sachez que vous faites partie des quelques centaines de personnes au monde à avoir entendu ce conte Wayuu, et peut-être avez-vous pu, malgré tout, en entendant ce récit, vous imaginer assis sous un arbre de la jungle vénézuélienne, en compagnie de ce vieil indien, s'accompagnant, tout en comptant, d'une cacho de cuerno et entouré de quelques enfants émerveillés. Puis, pour faire suite à ce conte de l'arbre à mamon, fruit pur de l'oralité, il est temps de parler du passage du conte de l'oral à l'écrit, avant d'aborder ce qui donne vie aux contes, les conteurs et les conteuses, ainsi que le renouveau du conte. Le conte, comme je vous le disais précédemment, est un genre qui a sa source dans l'oralité. C'est là qu'il est né, et sous sa forme la plus authentique, il est fait pour être raconté et donc entendu plutôt que lu. Les formes écrites qu'on lui donne et qu'on lui connaît ne sont donc que des transcriptions, des adaptations. Pourtant, dans notre monde occidental moderne, le livre reste un élément d'approche et de diffusion essentiel des contes. Pour faire court, depuis la Renaissance, les contes ont fait l'objet de réécritures, donnant naissance au fil des siècles à un genre littéraire à part entière. Le terme « conte littéraire » n'est donc pas synonyme de conte de fées ou de littérature exclusivement enfantine, contrairement à ce que son caractère volontiers fantaisiste et invraisemblable laisse souvent penser. Une légère différence à noter entre les contes issus de la tradition orale et les contes écrits réside dans le fait qu'au travers de l'oralité, ce sont souvent des animaux ou des plantes ou des objets qui agissent, alors que dans l'univers des contes écrits, on a tenté d'humaniser les contes en substituant les animaux par des humains. Si l'on devait retenir quelques noms qui ont marqué l'histoire des contes, on pourrait citer par ordre chronologique Charles Perrault, les frères Grimm, Jacob et Wilhelm, Hans Christian Andersen, plus proche de nous, Marcel Aimé, notamment avec la série de petites histoires « Les contes du chat perché ». Le temps s'écoulant si vite, je vais devoir passer immédiatement à l'histoire des conteurs et des conteuses, sans qui les contes n'existeraient pas. D'abord, la définition du mot « conteur » ou « conteuse ». Eh bien, c'est celui qui raconte une histoire sans aucun support autre que ses connaissances ou son imagination. En deux mots, les conteurs ne lisent pas des histoires, ils les racontent. En Occident, depuis le rhapsode grec et jusqu'au conteur de l'époque moderne, en passant par le barde celte, le troubadour du Moyen-Âge, la tradition orale du conte a perduré jusqu'à ce que la baisse de l'analphabétisme, à partir de la fin du XVIIIe siècle, fasse disparaître la nécessité d'un recours systématique à la mémoire des conteurs pour se rappeler une histoire. Et quand je disais au début de cette phrase en Occident, c'était pour souligner que, suivant les cultures africaines ou polynésiennes par exemple, la forme orale de transmission des contes est toujours d'actualité. Mais notons qu'en France est apparu un nouvel engouement pour le conte. Mais oui, la France connaît un mouvement artistique scénique apparu dans les années 70 qui revisite l'art de conter des histoires à un auditoire, mouvement qu'on appelle le renouveau du conte. Entamé dans les années 70, les années 80-90 ont vu de nombreux artistes faire du conte un véritable art de scène. Puis depuis les années 90, jusqu'à nos jours, sont nés des festivals dédiés à cet art du spectacle. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler, et cela concerne plus particulièrement les auditeurs de 48 FM, mais pas que, c'est que ce mois-ci, du 9 au 18 février, se tiendra, comme depuis plus de 30 ans, le festival Contes et Rencontres, qui, au travers de cette 33e édition, reviendra aux sources, réinventant la forme traditionnelle du conte dans certains spectacles, tandis que d'autres questionneront la notion des racines ou de l'exil, autour de ce paradigme « être d'ici ou d'ailleurs », sans oublier aussi de toujours convier les formes les plus modernes de l'art du récit. Le but, remettre la parole au cœur des relations humaines, qu'elles viennent d'ici ou de là-bas. S'émouvoir, compartir, s'identifier, rêver, s'émerveiller. Le conte n'a pas fini de faire grandir notre part d'humanité. Que vous soyez sur le Causse Méjean pour la soirée d'ouverture, sur les plateaux de l'Aubrac, en Cévennes ou en pleine Margeride, un spectacle sera à votre porte, car en 10 jours de festival, 26 représentations vous seront offertes sur l'ensemble de la Lozère en plein cœur du Gévaudan. Voilà, je referme cette parenthèse enchantée qui enchantera, je l'espère, nombreux Lozériens et touristes qui, hésitant encore sur le choix de leur destination pour ces vacances de février, choisiront ce beau département pour allier repos, plein air et culture. Mais comment devenir conteur aujourd'hui? Si vous aimez raconter, vous serez peut-être intéressé par ces quelques remarques et réflexions. Conter, c'est un art, car il ne suffit pas d'être à l'aise en public pour devenir un conteur. Comme toute forme d'art, conter s'appuie non seulement sur le talent, mais aussi sur des compétences et des techniques précises qu'il est possible d'apprendre et de développer. Si ça semble si simple quand on écoute les conteurs, c'est parce qu'ils maîtrisent toutes ces techniques pour nous faire voyager dans leurs histoires. C'est comme quand vous voyez un pianiste en concert ou un danseur professionnel en spectacle, ça semble si facile qu'on en oublie les heures de travail qui sont derrière. Eh bien, c'est la même chose pour le conte. Alors comment développer ces compétences? Quelles sont les étapes à suivre? Autrement dit, comment devenir conteur? Eh bien, on va essayer de référencer tout cela en quelques étapes. Premièrement, trouver des récits à raconter. Une bonne histoire à raconter n'est pas toujours facile à trouver. Il faut savoir à la fois la chercher et l'analyser. Moi qui ne suis pas conteur, j'ai malgré tout passé de nombreuses heures pour vous proposer ce programme d'une heure. Deuxièmement, une fois que le conte est trouvé, le conteur devra le faire s'y installer, se l'approprier, c'est-à-dire y mettre sa couleur, sa sensibilité. Comme quoi, même quand le conteur raconte une histoire vieille comme le monde, il y a toujours un peu de lui dans ce qu'il transmet, une part de création. Troisièmement, à mesure que le récit prend forme, le conteur doit penser à la façon dont il le transmettra à l'oral, afin que le public puisse imaginer l'histoire. De nombreux outils existent pour aider le conteur à y parvenir, notamment les techniques d'expression, l'intonation, le débit, la diction, la gestuelle, le vocabulaire. Le conteur pourra aussi s'appuyer sur sa sensibilité, ses émotions, ses habiletés d'improvisateur, sa propre capacité à visualiser le récit au fur et à mesure qu'il le raconte, sa relation au public. Toutes ces démarches permettent au conteur de se professionnaliser. On le dit souvent, c'est un long chemin, si beau et si grand, dont l'important n'est pas la destination. D'ailleurs, pour chaque conteur, le chemin sera différent. Si vous vous demandez si vous pouvez être conteur ou conteuse, la réponse est oui. Tout le monde peut s'engager sur ce chemin magnifique, que ce soit pour en faire son métier ou simplement pour le plaisir de partager des histoires. N'imaginez pas non plus qu'être conteur signifie uniquement être programmé dans des grandes salles et participer à des festivals de contes. L'art du conte peut être mobilisé dans différents contextes, de différentes manières, et porter divers objectifs. Pensons notamment aux ateliers de conte dans les écoles qui permettent aux jeunes de développer des compétences pour s'exprimer oralement, structurer leurs idées, développer leur vocabulaire. Le conte a même fait l'objet d'études sur le plan thérapeutique, notamment auprès des personnes souffrant d'Alzheimer. Il peut être aussi tout simplement divertissant et dynamisant pour des personnes âgées résidant en EHPAD. Au-delà d'un art de la scène, le conte reste un art de la relation. Et les récits sans âge qui ont traversé le temps, les époques et les territoires rappellent que nous sommes toutes et tous humains, avec tout ce que cela implique. Voilà comment je peux rapidement, une fois de plus, encourager chacun d'entre vous à s'intéresser au conte, en sachant que le parcours de chacun sera différent, mais en retenant que la première des qualités ou des envies doit être le partage. Puis trop rapidement, malheureusement, un des derniers aspects du conte, aspect important dont je n'ai pas encore parlé, que sont les questions, les devinettes qui accompagnent souvent les contes, avant ou même pendant. Car tout en racontant, il est parfois souhaitable de lancer une ou plusieurs questions au public. Et ce type de sollicitation de l'auditoire semble être la plus naturelle dans le conte. Car lorsqu'on raconte une histoire à quelqu'un, on a envie de savoir où il en est du voyage, on a envie de savoir s'il nous suit, s'il nous précède parfois, pour l'emmener un peu plus loin encore, jusqu'au bout du chemin. Et je me suis permis d'inventer une petite devinette en forme de virelangue, et amenant en même temps et surtout une réflexion sur notre monde très codifié, très réglementé, très normalisé, segmenté, compartimenté. Quelle différence y a-t-il entre un raconteur qui raconte et un conte-conteur qui compte? Eh bien malheureusement, dès que le rat compte, on se dit « que raconte-t-il ?» Mais quand le conte raconte, on se dit « comme il compte bien ?» Si vous n'avez pas l'étiquette de conteur ou la noblesse du titre, il est parfois difficile de se faire écouter. Et en disant cela, je ne peux m'empêcher de penser à Claude Steele, un psychologue, surtout connu pour son travail sur la menace des stéréotypes, stéréotypes ou préjugés. Quant à moi, suis-je un rat ou suis-je un conte? Qu'en pensez-vous? Pour vous mettre sur la voie, ma compagne Sourisette a plus d'une conteuse que d'une comtesse. Puis, comme pour refermer la boucle de l'internationalité du conte et de ses pérégrinations, où j'avais évoqué en début d'émission que l'idée de ce programme m'était venue suite à un commentaire sur mon émission Littérature orale ou écrite, où Nora Asval avait reconnu un poème que sa grand-mère nomade lui racontait quand elle était enfant. Eh bien, cette même Nora me faisait remarquer qu'un jour, de retour en Algérie, sa petite nièce voulut lui raconter un conte, celui de la vilaine petite poule. Et qu'après avoir écouté attentivement sa petite nièce, elle lui demanda d'où elle tenait cette belle histoire. « De maman, répondit-elle. » Alors, allant demander à sa mère d'où elle tenait elle-même cette histoire, elle lui répondit « C'est toi qui me la racontais quand j'étais petite. » Mais comme ici nous n'avons pas de canard, le vilain petit canard est devenu la vilaine petite poule. Voilà comment, sans volonté particulière de transformer ce conte d'Andersen, la transmission orale donna une autre vie à une autre histoire et comment le conte nouait sa pensée qu'il n'est pas mort. Et cette fantaisie est courante dans le conte car, si l'on prend l'exemple maintenant de la cigale et la fourmi, eh bien au XIIe siècle, quand il fut repris par le poète Saadi, la cigale devint un rossignol parce qu'il semblerait qu'en Iran il y avait des difficultés à reconnaître les cigales. Et comme il fallait un animal qui chante, le rossignol était très adéquat. Un des contes les plus répandus est certainement Cendrillon, conte dont les traces se retrouvent chez les Gallois, les Russes, les Finnois, les Grecs, les Égyptiens, et bien d'autres sur les 5 continents, au point que le psychanalyste Bruno Bettelheim comptait 345 versions dans son livre « Psychanalyse des contes de fées ». Et malgré tout cela, on suppose que l'origine de ce conte est chinois, à cause de la pantoufle de verre par laquelle le prince reconnaît sa belle et qui est si essentielle au déroulement du conte. Car il n'y a qu'en Chine que la beauté de la personne est aussi reliée à la beauté du pied. Et aussi le fait qu'on a une version chinoise ancienne qui est attestée, assez brève d'ailleurs, et qui date du 8e siècle. La première version imprimée que nous ayons de ce conte. À vrai dire, peu importe si les origines des contes sont fiables et vérifiables, pourvu que l'émotion, soit toujours au rendez-vous. Et en termes d'émotion, et pour réellement finir ce petit tour du monde des contes, en voici un dernier, tiré des légendes du peuple Pawnee, natif d'Amérique du Nord, plus particulièrement du Nebraska et du Kansas. Chez les Pawnee, vivant sur les bords de la rivière Platte, comme dans de nombreuses civilisations, le cheval est un animal sacré qui symbolise la fidélité, l'amitié, la loyauté. Alors, en ce temps-là, chez les Pawnee, les femmes travaillaient dur, dans les champs, pendant que les hommes faisaient la guerre. Heureusement, la beauté habitait aussi ce monde. Un jour, quelques guerriers poursuivirent un groupe de chevaux sauvages jusqu'en territoire Comanche. Ils finirent par capturer un très joli et fougueux poney tacheté. Sa robe avait la couleur du miel et du lait. L'Indien, fier de sa prise, le ramena au camp et le remit à sa fille, Eau qui coule, car elle aimait prendre soin des autres, animaux ou humains. La rencontre entre la jeune femme et le poney fut empreinte d'affection. Elle le brossa, elle conduisit dans une prairie grasse et verdoyante. Elle veilla constamment à ce qu'il ne souffre ni de la pluie, ni du vent glacial, allant jusqu'à lui tisser une couverture qu'elle orna de perles. Le poney prenait soin, lui aussi, d'eau qui coule, lui offrant sa belle énergie. Ainsi, grâce aux attentions de la femme et à leur complicité, le jeune poney devint un fidèle et magnifique coursier. Un matin, se dirigeant vers la prairie où elle avait laissé l'animal la veille, Eau qui coule rencontra un homme qu'elle n'avait jamais vu chez les ponies. Cet homme, beau et agile, d'où se dégageait un air bon et sauvage, portait une tunique couleur de miel et de lait. Eau qui coule lui parla de son poney et lui proposa d'aller jusqu'à la prairie pour le découvrir. Mais quand elle remarqua l'absence de l'animal, l'étranger ne lui laissa pas le temps de s'inquiéter et lui dit « Celui que tu cherches ne peut être à deux endroits. Ton poney, c'est moi. Chaque jour je t'attends et aujourd'hui je viens vers toi en ton comme cheval. » Eau qui coule sut tout de suite qu'il ne mentait pas. Cet Indien magnifique, à l'habit tacheté, était bien son poney. Aussitôt, elle fut comblée et ne se posa aucune question. Prenant sa main, ils quittèrent ensemble la prairie et en toute inconscience, après avoir traversé la rivière Plate, ils s'installèrent dans un bois et y dressèrent une hutte. De leur amour enchanté, naquit un poulain à la robe crémeuse tachetée d'or. Mais après l'avoir mise au monde, Eau qui coule sentit qu'elle se métamorphosait. Sa longue chevelure prit l'aspect d'une crinière soyeuse, sa peau douce devint cuir. Un matin, elle se dressa sur ses sabots et constatant que son compagnon avait repris sa forme, elle hennit de contentement, secoua son cuir avant de galoper à ses côtés dans le vent des grandes plaines. Nombreuses légendes naquirent autour de cette histoire, mais la plus vraisemblable est que l'espoir de capturer homme, cheval ou femme jument n'est qu'un rêve fabriqué par des ignorants. Car personne n'y parviendra jamais, nul ne peut enfermer deux étoiles qui dansent. Ainsi, homme, cheval et femme jument galopent encore ici, dans ces prairies où tous les êtres sont parents.
C'était une émission préparée, présentée et réalisée par Gilles Beigue.
Voilà comment, en une heure, j'avais envie d'entrer, en votre compagnie, dans l'univers des contes, son histoire, ses origines, son évolution, son utilité, ses pouvoirs, et ce plaisir immense à les dire et à les écouter. Comme toujours, un clic sur le site orinoco-podcast vous permettra de trouver un article illustré ainsi que les textes de certains des contes entendus dans cette émission. Vous y trouverez aussi la liste des thèmes musicaux et la possibilité de laisser un commentaire. En attendant de vous retrouver le mois prochain, je vous souhaite le meilleur à l'écoute de vos radios préférées. À dans un mois. Ciao. Mm-hmm.